Souvenirs, deuxième partie, adolescence. Chapitre 24. Où mes idées changent. Deux équipages sont de nouveau rangés devant le perron de Petrovskoe. L'un est une voiture fermée, dans laquelle prennent place Mimi, Catherine, Lyubotchka et une femme de chambre. Yakov en personne, l'intendant, est sur le siège et conduit. L'autre équipage est une britchka. J'y monte avec Volodia et notre nouveau laquais, Vassili. Papa, qui doit nous suivre dans quelques jours à Moscou, est nu-tête sur le perron. Il fait le signe de la croix sur la portière de la voiture fermée et sur la britchka. Le Seigneur soit avec vous. En route. Yakov et le cocher, nous parlions avec nos chevaux, ôtent leur bonnet fourré et se signent. Dieu soit avec nous. Les caisses des voitures commencent à sauter sur le chemin raboteux et les bouleaux de la grande allée défilent l'un après l'autre devant nous. Je ne suis pas le moins du monde triste. Les yeux de mon esprit regardent ce qui m'attend et non ce que je quitte. À mesure que je m'éloigne des objets auxquels se rattachent les cruels souvenirs dont mon âme a été remplie jusqu'à présent, ces souvenirs s'émoussent et se transforment rapidement en une sensation agréable. Se sentir vivre, se sentir jeune, plein de force et d'espoir. J'ai rarement passé des jours, je ne dirais pas aussi gais, je me faisais encore scrupule d'être gais, mais aussi agréable, aussi bon, que les 4 jours de ce voyage. Je n'avais plus sous les yeux la porte close de la chambre de maman, devant laquelle je ne pouvais passer sans un frisson, ni le piano fermé, dont personne n'approchait et qu'on ne regardait même pas sans une sorte de terreur, ni les vêtements de deuil. On nous avait mis à tous des costumes de voyage ordinaires. Ni ces 1000 objets qui, en ravivant le souvenir de notre perte irréparable, m'obligeait à me garder de toute manifestation de vie, de peur d'offenser sa mémoire. Maintenant, au contraire, une succession ininterrompue de tableaux nouveaux et pittoresques occupe mon attention. L'influence du printemps fait couler dans mon âme le contentement du présent et l'espoir lumineux en l'avenir. Le dernier jour, Catherine était avec moi dans la britchka. Sa jolie petite tête penchée en avant, elle regardait d'un air pensif la route poudreuse fuir sous les roues. Je la considérais en silence et m'étonnais de l'expression que je surprenais pour la première fois sur son visage rose. Ce n'était pas une tristesse d'enfant. « Nous sommes bientôt arrivés, lui dis-je. « Comment te figures-tu, Moscou ?»« Je ne sais pas, » dit-elle comme à contre-cœur. « Mais enfin, comment te le figures-tu ? Plus grand que Serpukhov ou non ?»« Je n'en sais rien. » Grâce à l'instinct qui nous fait deviner les pensées des autres et qui est le fil conducteur de la conversation, Catherine comprit que son indifférence me froissait. Elle leva la tête et me dit « Papa vous a dit que nous habiterions chez votre grand-mère ?»« Oui, grand-mère veut vivre tout à fait avec nous. »« Nous demeurerons tous ensemble ?»« Naturellement, nous aurons la moitié du haut. Papa habitera l'aile et nous dînerons tous ensemble en bas, chez grand-mère. »« Maman dit que grand-mère est si imposante, si irritable. »« Non !» Ça fait cet effet-là au commencement. Elle est imposante, mais pas du tout irritable. Au contraire, elle est très bonne, très gaie. Si tu avais vu notre bal pour sa fête... C'est égal, j'ai peur d'elle. Du reste, Dieu sait si nous... Catherine se tut brusquement et redevint pensive. Quoi ? Demandai-je avec inquiétude. Rien. « Si, tu as dit, Dieu sait... »« Tu disais que le bal de la grand-mère avait été très beau ?»« Oui, quel dommage que vous n'ayez pas été là. Il y avait une masse de gens, 1000 personnes, et de la musique, des généraux, et j'ai dansé, Catherine !» dis-je en m'arrêtant tout à coup au milieu de ma description. « Tu ne m'écoutes pas ?»«
Si, j'écoute. Tu disais que tu as dansé. »
« Pourquoi tu as l'air si triste ?»«
On n'est pas toujours gai. »
« Non, tu n'es plus du tout la même depuis que nous sommes revenus de Moscou. Voyons, » continuai-je d'un ton décidé en me tournant vers elle. « Dis-moi, pourquoi tu es devenue toute singulière ?»«
Je suis singulière ?»
répliqua Catherine avec une vivacité qui montrait que ma remarque l'avait intéressée.
« Je ne suis pas du tout singulière. »
« Non, tu n'es plus comme tu étais, » poursuivis-je. « Avant, on voyait que tu ne faisais qu'un avec nous, pour tout, que tu nous regardais comme ta famille et que tu nous aimais comme nous t'aimons. À présent, tu es toute sérieuse, tu t'éloignes de nous. »
« Pas du tout. »
« Non, laisse-moi parler, » interrompis-je. Je commençais à sentir dans le nez un léger chatouillement, précurseur des larmes qui ne manquaient jamais de me monter aux yeux lorsque j'exprimais une pensée qui m'étouffait depuis longtemps.
« Tu t'éloignes de nous, tu ne causes qu'avec Mimi, tu as l'air de ne plus vouloir nous connaître.
On ne peut pas rester toujours les mêmes, il faut bien changer un jour ou l'autre, » répondit Catherine. Quand Catherine ne savait que dire, elle formulait ainsi quelques lois inexorables. C'était une habitude. Je me rappelle qu'un jour, en se disputant avec Lyuboshka, celle-ci l'appela « sotte ». Catherine repartit que tout le monde ne pouvait pas avoir de l'esprit, qu'il fallait qu'il y eût aussi des sots. Cependant, sa réponse, qu'il fallait bien changer un jour ou l'autre, ne me satisfit pas, et je continuai mes questions.
« Pourquoi faut-il changer ?»«
Nous ne vivrons pas toujours ensemble, » répliqua Catherine en rougissant légèrement et en regardant fixement le dos de Philippe, notre cocher. « Maman pouvait vivre chez votre mère, qui était son amie. Qui sait si elle s'entendra avec la comtesse, qu'on dit si difficile. D'ailleurs, il faudra toujours nous séparer un jour ou l'autre. Vous êtes riche, vous avez Petrovskoe. Et nous, nous sommes pauvres. Maman n'a rien. »
Vous êtes riche, nous sommes pauvres.
Ces mots, et les idées qu'ils éveillaient, me parurent extraordinairement bizarres. Dans mes idées d'alors, il n'y avait de pauvres que les mendiants et les moujiks, et il m'était impossible d'associer l'idée de pauvreté avec la gracieuse et jolie Catherine. Je me figurais que Mimi et sa fille, quand elle devrait vivre éternellement, habiterait toujours avec nous, et que nous partagerions toujours tout avec elle. Cela ne pouvait pas être autrement. Les paroles de Catherine me suggérèrent 1000 pensées nouvelles et confuses sur leur situation isolée, et je me sentis si gênée de ce que nous étions riches, tandis qu'elles étaient pauvres, que je rougis et que je n'osais plus regarder Catherine.
« Qu'est-ce que cela fait ? » pensais-je, « que nous soyons riches et elle pauvre. En quoi est-ce que cela oblige à se séparer ? Pourquoi ne pas partager également ce que nous avons ?»
Je comprenais pourtant qu'il ne serait pas à propos de parler de ce sujet à Catherine. Une sorte d'instinct pratique me mettait déjà en garde contre mes déductions logiques et m'avertissait que Catherine avait raison, et qu'il serait déplacé de lui faire part de mon idée.
« Est-ce que tu vas vraiment nous quitter ? »
dis-je.
« Comment ferons-nous pour vivre séparés ? »
« J'en aurai aussi du chagrin, mais comment faire ? Seulement, si cela arrive, je sais bien ce que je ferai. »
« Tu te feras actrice ! Quelle bêtise ! » interrompis-je, sachant que le théâtre avait toujours été son rêve favori.
« Non, je disais cela quand j'étais petite. »«
Alors, qu'est-ce que tu feras ?»«
J'entrerai au couvent et je vivrai là. J'aurai une petite robe noire et un petit bonnet de velours. »
Catherine fondit en larmes.
« Vous est-il jamais arrivé, lecteur, de vous apercevoir tout à coup, à certains moments de la vie,
que votre manière de voir sur les choses change complètement, comme si tous les objets tournaient subitement vers vous une face nouvelle et ignorée. Une transformation de cette nature se produisit en moi, pour la première fois, pendant le voyage d'où je fais dater le commencement de mon adolescence. Pour la première fois, j'eus la perception nette que nous, c'est-à-dire notre famille, nous n'étions pas seuls sur la terre, que tous les intérêts ne tournaient pas autour de nous, qu'il existait dans le monde d'autres gens n'ayant rien de commun avec nous, ne s'occupant pas de nous et ne connaissant même pas notre existence. Sans doute je savais tout cela auparavant, mais je ne le savais pas comme je le sus à partir de cet instant. Je n'en avais pas le sentiment, je ne le réalisais pas. Il n'y a pour chacun de nous qu'un seul chemin par lequel ce changement moral s'accomplit, et ce chemin est souvent tout à fait inattendu, tout à fait à part de celui qu'auraient suivi d'autres esprits. Pour moi, le chemin fut la conversation avec Catherine, qui me troubla profondément, en m'obligeant à envisager l'avenir de Mimi et de sa fille. Je contemplais les villages et les villes que nous traversions, et où, dans chaque maison, vivait au moins une famille comme la nôtre. Les femmes et les enfants regardaient notre équipage avec une curiosité d'une minute et disparaissaient pour toujours de nos yeux. Les boutiquiers et les moujiks non seulement ne nous saluaient point comme à Petrovskoe, mais ne nous honoraient même pas d'un regard. Et je me posais pour la première fois cette question. De quoi peuvent-ils être occupés puisqu'ils ne font aucune attention à nous? Et cette question en fit naître d'autres. Comment et de quoi vivent-ils? Comment élèvent-ils leurs enfants? Leur font-ils faire des leçons? Les laissent-ils jouer? Comment les appellent-ils? Etc. Chapitre 25. À Moscou. Ma manière de voir sur les choses et les gens et sur mes relations avec les uns et les autres se modifia encore plus profondément en arrivant à Moscou. La première fois que nous revîmes grand-mère, quand j'aperçus son visage desséché et ridé et ses yeux éteints, la soumission respectueuse et la terreur qu'elle m'avait inspirée jusque-là se changèrent en compassion. Et quand elle laissa tomber sa figure sur la tête de Lioubotchka en sanglotant comme si elle avait été devant le cadavre de sa chère fille, ma compassion se changea presque en tendresse. Le spectacle de son chagrin en nous revoyant me mettait mal à l'aise. J'avais conscience que nous comptions pour rien à ses yeux et que nous ne lui étions chers que parce que nous lui rappelions le passé. Je sentais que tous les baisers dont elle couvrait mes joues n'exprimaient qu'une seule idée. Elle n'y est plus. Elle est morte. Je ne la reverrai plus. Papa, qui à Moscou ne s'occupait presque pas de nous et que nous ne voyions qu'au dîner, où il apparaissait en redingote noire ou en habit, avec une figure éternellement préoccupée, papa commença à baisser dans mon esprit, ainsi que ses grands cols de chemise ressortant du collet de l'habit, sa robe de chambre, ses starostes, ses intendants, ses promenades dans l'enclos et sa chasse. Karl Ivanovitch, que grand-mère appelait notre menin, et qui, Dieu sait pourquoi, avait eu tout à coup l'idée de couvrir son vénérable front chauve d'une perruque rousse, séparée vers le milieu de la tête par une raie en étoffe, Karl Ivanovitch me paraissait si bizarre et si ridicule que je m'étonnais de ne pas m'en être aperçu plus tôt. Une sorte de barrière invisible s'était élevée entre les filles et nous autres garçons. Elles avaient leurs secrets et nous avions les nôtres. On aurait dit qu'elles nous dédaignaient à cause de leurs jupes devenues plus longues et nous à cause de nos pantalons à sous-pieds. Le premier dimanche après notre arrivée, Mimi parut à dîner avec une toilette si flamboyante et tant de rubans sur la tête qu'on voyait tout de suite que nous n'étions plus à la campagne et que tout devait aller différemment. Chapitre 26. Macha. De tous les changements qui s'opérèrent dans ma manière de voir, aucun ne fut aussi frappant pour moi-même que d'apercevoir la femme dans une de nos femmes de chambre. Je n'avais vu en elle jusqu'ici qu'un domestique du sexe féminin, et voici qu'elle devenait un être d'où pouvait dépendre, jusqu'à un certain point, mon repos et mon bonheur. Du plus loin que je me souvienne, je me rappelle avoir vu Macha dans notre maison, et jamais je n'avais fait la moindre attention à elle, jusqu'à un événement qui bouleversa mes idées à son égard, et que je raconterai tout à l'heure. Macha avait 25 ans quand j'en avais 14. Elle était fort jolie, mais je n'ose la décrire, de peur que mon imagination ne se refuse à me représenter l'image enchanteresse et trompeuse qu'elle s'était formée au temps de ma passion. De crainte d'erreur, je me contenterai de dire qu'elle était extraordinairement blanche, très plantureuse, que c'était une femme et que j'avais 14 ans. Dans une de ces minutes où, votre leçon à la main, vous vous promenez par la chambre en vous étudiant à ne marcher que sur certaines fentes du plancher, à moins que vous ne vous occupiez à chanter un air inepte ou à barbouiller d'encre le bord de la table, ou à répéter machinalement une phrase quelconque, dans une de ces minutes, en un mot, où l'esprit se refuse au travail et où l'imagination, prenant le dessus, cherche des impressions. Je sortis de la classe et descendis sans aucun but vers le palier de l'escalier. Une personne en souliers montait l'escalier en sens inverse. Naturellement, j'eus envie de voir qui c'était. Mais les pas cessèrent tout à coup, et j'entendis la voix de Macha. « Allons, pas de bêtises. Marie Ivanovna vient. Ce serait une belle affaire. »«
Elle ne vient pas !»
murmura la voix de Volodia. Et j'entendis une lutte, comme si Volodia essayait de la retenir. « Voulez-vous bien ôter vos mains, polisson ?» Et Macha passa en courant devant moi. Son fichu arraché était tout de travers, et l'on voyait son cou blanc et plein. Je ne saurais dire à quel point cette découverte m'ébahit. Toutefois, l'ébahissement céda promptement la place à la sympathie. Ce n'était déjà plus l'action de Volodia qui m'étonnait. C'était qu'il eût su deviner qu'elle lui procurerait de l'agrément. Malgré moi, j'avais envie de l'imiter. Je passais désormais des heures entières sur le palier de l'escalier, écoutant avec une attention intense les moindres mouvements qui se faisaient à l'étage supérieur. Mais jamais je ne pus prendre sur moi d'imiter Volodia. C'était pourtant la chose du monde dont j'avais le plus envie. Parfois, caché derrière la porte, j'écoutais avec un sentiment de jalousie très pénible le vacarme qui s'élevait dans la chambre des servantes. Je me demandais ce qui arriverait si j'entrais et si j'essayais, comme Volodia, d'embrasser Macha. Ce que je répondrais avec mon gros nez et mes cheveux en l'air quand elle me demanderait ce que je voulais. Je l'entendais quelquefois dire à Volodia « Voulez-vous bien me laisser tranquille, polisson? Allez-vous-en. Ce n'est pas Nicolas Petrovitch qui viendrait faire des sottises comme ça. » Elle ne se doutait pas qu'en ce même moment, Nicolas Petrovitch était caché sous l'escalier et qu'il donnerait tout au monde pour être à la place de ce polisson de Volodia. J'étais naturellement timide, et la conscience de ma laideur augmentait ma timidité. Je suis convaincue que rien n'exerce une influence aussi grande sur la future manière d'être d'un homme que son extérieur et le sentiment d'être ou de ne pas être séduisant de sa personne. J'avais trop d'amour-propre pour me résigner à être comme j'étais. Je me consolais, comme le renard, en me disant que les raisins étaient trop verts. En d'autres termes, je m'efforçais de mépriser tous les plaisirs que procure un extérieur agréable, et qui étaient, dans ma pensée, le lot de Volodia. Je les enviais de toute mon âme, mais je m'efforçais de toutes les forces de mon esprit et de mon imagination de trouver des jouissances dans un isolement orgueilleux. Chapitre 27. Le petit plomb.
« Mon Dieu, de la poudre !»
criait Mimi d'une voix suffoquée par l'émotion. « Et qu'est-ce que vous faites là? Vous voulez donc mettre le feu à la maison? Nous tuer tous ?» Avec une expression d'héroïsme impossible à décrire, Mimi ordonna à tout le monde de s'écarter, se dirigea avec de grandes enjambées résolues vers le petit plomb éparpillé sur le plancher et le piétina, au mépris du péril d'une explosion subite. Lorsqu'elle jugea le danger diminué, elle appela un domestique et lui ordonna d'aller jeter toute cette poudre un peu loin, de préférence dans l'eau. Après quoi, elle secoua orgueilleusement son bonnet et se dirigea vers le salon en marmottant « Ils sont bien surveillés, il n'y a pas à dire !» Quand papa sortit de son aile et que nous entrâmes avec lui chez grand-mère, Mimi y était déjà. Elle était assise près de la fenêtre. Son visage avait revêtu une sorte d'expression mystérieuse et officielle, et elle regardait d'un air menaçant dans la direction de la porte. Sa main tenait un objet enveloppé dans des morceaux de papier. Je devinais que c'était le plomb, et que grand-mère savait déjà tout. Il y avait là, outre Mimi, la femme de chambre Gacha, en proie à une violente émotion que trahissait son visage enflammé et farouche, et le docteur Blumenthal, un petit homme grêle qui s'efforçait en vain de calmer Gacha par des clignements d'yeux et des signes de tête pacificateurs. Grand-mère était assise un peu en côté et faisait la patience du voyageur, ce qui était toujours chez elle l'indice d'une humeur détestable.
« Comment allez-vous aujourd'hui, maman? Avez-vous bien dormi ?»
dit papa en lui baisant respectueusement la main.
« Parfaitement, mon cher. Vous n'ignorez pas, je suppose, que je me porte toujours admirablement. »
répliqua grand-mère du même ton que si la question de papa avait été souverainement déplacée et blessante.
« Eh bien ? »
continua-t-elle en se tournant vers Gacha.
« Et mon mouchoir propre ?»«
Je vous l'ai donné, » répondit Gacha en montrant un mouchoir de batiste blanc comme neige posé sur le bras du fauteuil.
« Ôtez-moi cette guenille sale et donnez-moi un mouchoir propre, ma chère. »
Gacha alla au chiffonnier, ouvrit un des tiroirs et le referma si violemment que les vitres des fenêtres tremblèrent. Grand-mère nous jeta à tous un regard terrible, puis se remit à suivre les mouvements de sa femme de chambre. Lorsque celle-ci lui présenta le mouchoir, il me sembla que c'était le même. Grand-mère lui dit
« Quand me rapperez-vous du tabac, ma chère ?»«
Quand j'aurai le temps. »«
Qu'est-ce que vous dites ?»«
Je dis que je vais en râper. » »«
Si vous ne vouliez pas faire mon service, ma chère, vous auriez mieux fait de le dire. » « Il y a longtemps que je vous aurais renvoyé. »«
Vous pouvez me renvoyer, on n'en pleurera pas !» marmotta Gacha entre ses dents. Le docteur recommença ses clignements d'yeux, mais Gacha tourna vers lui un visage si courroucé et si décidé qu'il se hâta de faire le plongeon avec sa tête et se mit à jouer avec sa clé de montre.
« Vous voyez, mon cher !»
dit grand-mère en s'adressant à papa après que Gacha eut quitté la chambre en continuant à grommeler.
« Comment on me traite dans ma propre maison ?»«
Permettez, maman, je vous rapperai du tabac moi-même, » dit papa, que cette apostrophe inattendue parut embarrasser beaucoup.
« Non, je vous remercie. Elle n'est si malhonnête que parce qu'elle sait bien qu'il n'y a qu'elle qui sache rapper mon tabac à mon goût. « Vous savez, mon cher,
continua grand-mère après une petite pause, « que vos enfants ont manqué mettre le feu à la maison ?» Papa la regarda avec une expression de curiosité respectueuse. « Oui, voilà avec quoi ils jouent. Montrez !» ajouta-t-elle en se tournant vers Mimi. Papa prit le papier et ne put s'empêcher de sourire. « Mais maman, c'est du petit plomb » dit-il. « Ce n'est pas du tout dangereux. » « Je vous suis très reconnaissante, mon cher, de me donner des leçons, mais je suis trop vieille. »«
Les nerfs, les nerfs !» murmura le docteur.
Papa se tourna aussitôt vers nous.
« Où avez-vous pris ça? Comment osez-vous plaisanter avec ces choses-là »
« Inutile de les interroger, mais il faut prier leurs menins de les surveiller !»
dit grand-mère en appuyant avec une inflexion de voix méprisante sur le mot menin.
Volodia dit que c'est Karl Ivanovitch qui lui a donné cette poudre, intervint Mimi.
Vous voyez quel joli surveillant, continua grand-mère. Et où est-il, ce menin? Envoyez-le-moi ici.
Je lui ai permis de sortir, dit papa.
« Ce n'est pas une raison, il devrait toujours être là. Ce ne sont pas mes enfants, ce sont les vôtres, et je n'ai pas de conseils à vous donner. Vous avez plus d'esprit que moi. Mais il me semble qu'il serait temps de leur donner un gouverneur au lieu d'un menin, une espèce de rustre allemand. Oui, un imbécile et un rustre, qui n'est capable de leur rien apprendre, excepté les mauvaises manières et des chansons tyroliennes. » « Je vous demande un peu s'il est très nécessaire que les enfants sachent chanter des tyroliennes. Du reste, à présent, il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux, et vous pouvez faire ce qu'il vous plaira. »«
À présent, voulait dire, puisqu'ils n'ont plus de mère. » Et « à présent » réveilla des souvenirs tristes dans le cœur de grand-mère. Elle baissa les yeux sur sa tabatière à portrait et devint pensive.
« J'y songeais depuis longtemps, » se hâta de dire papa. « Et je voulais vous demander votre avis, maman. Si nous prenions Saint Jérôme, qui leur donne en ce moment des leçons au cachet. »
« Tu ferais admirablement, mon ami, » dit grand-mère d'une voix radoucie. « Saint Jérôme est un gouverneur qui sait comment il faut élever des enfants de bonne maison. » Et non un simple menin, bon seulement à les mener promener.
Je lui parlerai dès demain, dit papa. En effet, deux jours après cette conversation, Karl Ivanovitch cédait sa place à un jeune petit maître français.
Chapitre 28. Histoire de Karl Ivanovitch. La veille du jour où Karl Ivanovitch devait nous quitter, tard dans la soirée, il était debout auprès de son lit, vêtu de sa robe de chambre de cotonnade et sa calotte rouge sur la tête. Penché sur sa malle, il emballait soigneusement ses hardes. Pendant ces derniers jours, Karl Ivanovitch avait été très sec avec nous. On aurait dit qu'il cherchait à avoir le moins de rapport possible avec ses élèves. En ce moment encore, quand j'entrais dans sa chambre, il se contenta de me jeter un regard en dessous et se remit à emballer. Je me jetai sur son lit, chose absolument défendue. Mais Karl Ivanovitch ne dit rien, et l'idée qu'il ne nous gronderait plus, qu'il ne nous ferait plus finir, que ce que nous faisions ne le regardait plus, me donna l'impression vive de la séparation prochaine. Je me sentais tout triste de ce qu'il ne nous aimait plus. J'avais à cœur de lui exprimer ma tristesse. « Voulez-vous que je vous aide, Karl Ivanovitch ? » dis-je en m'approchant de lui. Karl Ivanovitch me lança un autre coup d'œil et se détourna de nouveau. Mais dans ce coup d'œil, au lieu de l'indifférence à laquelle j'attribuais sa froideur, je l'eus un chagrin sincère et concentré.
Dieu voit tout et sait tout. Que sa sainte volonté soit faite en tout.
dit-il en se redressant de toute sa hauteur et en soupirant profondément.
« Oui, Nicolas, »
continua-t-il en voyant l'expression de sympathie non feinte avec laquelle je le regardais.
« Mon sort est d'être malheureux. Je l'ai été dès l'enfance et le serai jusqu'à mon cercueil. On m'a toujours rendu le mal pour le bien, et ma récompense ne sera pas sur cette terre. Elle sera là. »
Il montrait le ciel.
« Si vous saviez mon histoire et ce que j'ai eu à souffrir dans cette vie, j'ai été cordonnier, j'ai été soldat, j'ai été déserteur, j'ai été fabricant, j'ai été précepteur, et à présent, je suis zéro. Et comme le Fils de Dieu, je n'ai pas où reposer ma tête. »
Il ferma les yeux et se laissa tomber dans son fauteuil. Remarquant que Karl Ivanovitch était dans un de ces moments d'attendrissement où il parlait pour se décharger le cœur, sans faire attention à ses auditeurs, je m'assis sur le lit sans rien dire et sans quitter sa bonne figure des yeux.
« Vous n'êtes plus un enfant, vous pouvez comprendre. Je vais vous raconter mon histoire et tout ce que j'ai eu à souffrir dans cette vie. Il viendra un temps où vous penserez au vieil ami qui vous aimait tant. Enfant. »
Karl Ivanovitch posa un de ses coudes sur une petite table qui se trouvait à côté de lui, prit une prise de tabac, leva les yeux au ciel, et de cette même voix monotone et gutturale avec laquelle il nous faisait nos dictées, il commença son récit en ces termes.
« J'ai été malheureux dès le sein de ma mère. »
Il répéta la même phrase en allemand d'un ton profondément pénétré. Karl Ivanovitch, m'ayant depuis raconté son histoire bien des fois, toujours dans les mêmes termes et avec les mêmes intonations, j'espère pouvoir la donner ici mot pour mot. Je n'en retrancherai que les fautes de syntaxe. Était-ce réellement son histoire? Était-ce un conte? Né dans son imagination pendant son existence solitaire dans notre maison, et auquel il avait fini par croire à force de se le répéter. S'était-il contenté de revêtir de couleurs fantastiques des événements véritables? J'en suis encore à me le demander. D'un côté, il racontait son histoire avec une émotion trop sincère, avec trop de suite et de méthode pour qu'elle ne portât pas le cachet de la vérité et qu'on pût ne pas y croire. D'autre part, elle était trop poétique. L'excès de poésie inspirait des soupçons. Le noble sang des contes de Sommerblatt coule dans mes veines. Je naquis 6 semaines après le mariage. Le mari de ma mère, je l'appelais papa, était fermier du comte de Sommerblatt. Il ne put jamais oublier la honte de ma mère, et il ne m'aimait pas. J'avais un petit frère nommé Johann et 2 sœurs, mais j'étais un étranger dans ma propre famille. Quand Johann faisait une bêtise, papa disait « Je n'aurai jamais une minute de tranquillité avec ce petit Karl. » Et c'était moi qu'on grondait et qu'on punissait. Quand mes sœurs se disputaient, papa disait « Karl sera toujours désobéissant. » Et c'était moi qu'on grondait et qu'on punissait. Il n'y avait que mon excellente mère qui m'aima et me caressa. Souvent, elle me disait « Karl, viens ici dans ma chambre. » Et elle m'embrassait sans bruit. « Mon pauvre, pauvre Karl, » disait-elle, « personne ne t'aime, mais je ne te changerai pas contre un autre. » « Ta mère, » disait-elle encore, « ne te demande qu'une seule chose, de bien travailler. » Et d'être toujours un honnête homme, et Dieu ne t'abandonnera pas. » Moi, je faisais ce que je pouvais. Quand j'eus 14 ans et que je fus d'âge à faire ma première communion, maman dit à papa, « Voilà Karl, grand garçon, Gustave, qu'est-ce que nous allons en faire ?» Et papa répondit, « Je ne sais pas. » Alors maman dit, « Envoyons-le à la ville, chez Herr Schulz, et faisons-le cordonnier. » Et papa dit « Bien. » Je restai 6 ans et 6 mois à la ville, chez le cordonnier. Et le patron m'aimait. Il disait « Karl est bon ouvrier, et j'en ferai bientôt mon associé. » Mais l'homme propose et Dieu dispose. En 1796, on fit la conscription, et tous ceux qui étaient bons pour le service, de 18 à 21 ans, durent se rassembler à la ville. Papa arriva avec mon frère Johann, et nous allâmes tirer au sort à qui serait et ne serait pas soldat. Johann tira un mauvais numéro, il était pris. Je tirai un bon numéro, je n'étais pas pris. Et papa dit « J'avais un fils unique, et il faut m'en séparer. » Je lui pris la main et je dis « Pourquoi dites-vous ça, papa ? Venez avec moi, je vous ferai voir quelque chose. » Et papa vint avec moi. Papa vint avec moi, et nous nous assîmes à une petite table dans l'auberge. « Donnez-nous 2 cruchons de bière, » dis-je. On nous servit, nous bûmes un verre, et mon frère Johann aussi. « Papa, » dis-je, « ne dites pas « j'avais un fils unique et il faut m'en séparer. Le cœur me saute dans la poitrine quand j'entends ça. Mon frère Johann ne partira pas. C'est moi qui serai soldat. Personne n'a besoin de Karl, et Karl sera soldat. » « Karl Ivanovitch, vous êtes un brave garçon !» dit papa. Et il m'embrassa. Et je fus soldat. Chapitre 29 Suite. C'était alors un temps terrible, Nicolas. C'était le temps de Napoléon. Il voulait conquérir l'Allemagne, et nous défendions notre patrie jusqu'à la dernière goutte de notre sang. J'étais à Ulm, j'étais à Austerlitz, j'étais à Wagram. « Vous vous êtes battu ? » interrompis-je en le regardant avec étonnement. « Vous avez tué des gens ?» Karl Ivanovitch se hâta de me rassurer. Une fois, un grenadier français resta en arrière et tomba sur la route. Je courus à lui et j'allais lui enfoncer ma baïonnette dans le corps. Mais il jeta son fusil en criant « Pardon !» et je le laissai aller. À Wagram, Napoléon nous avait enfermés dans une île, de sorte qu'il n'y avait pas moyen de se sauver. Il y avait 3 jours que nous n'avions plus de vivres, et nous étions dans l'eau jusqu'aux genoux. Ce monstre de Napoléon ne voulait ni nous prendre, ni nous laisser nous en aller. Le 4e jour, grâce à Dieu, on nous fit prisonniers et on nous conduisit dans une forteresse. J'avais un pantalon bleu, une tunique de bon drap, 15 thalers et une montre en argent que papa m'avait donnée. Un soldat français me prit tout. Par bonheur, j'avais 3 ducats que maman m'avait cousus dans la doublure de mon gilet. Personne ne les trouva. Je ne me résignai pas longtemps à rester dans la forteresse et je pris la résolution de m'échapper. Un jour de grande fête, je dis au sergent qui nous gardait « Monsieur le sergent, c'est aujourd'hui une grande fête et je veux la célébrer. S'il vous plaît, apportez 2 flacons de madère et nous les boirons ensemble. » Le sergent répondit « Bon. » Quand le sergent eut apporté le madère et que nous eûmes bu un petit verre, je lui pris la main et je lui dis « Monsieur le sergent, vous avez peut-être un père et une mère ?» Il répondit « J'en ai, monsieur Mayer. » « Mon père et ma mère, dis-je, ne m'ont pas vu depuis 8 ans et ignorent si je suis vivant ou si mes os reposent dans la terre humide. Oh, monsieur le sergent, j'ai 2 ducats qui étaient dans la doublure de mon gilet. Prenez-les et laissez-moi me sauver. Soyez mon bienfaiteur et ma mère priera toute sa vie pour vous, le Dieu Tout-Puissant. » Le sergent but un petit verre de madère et dit « Monsieur Mayer, je vous aime beaucoup et je vous plains, mais vous êtes mon prisonnier et je suis soldat. » Je lui serrai la main et je dis « Monsieur le sergent !» Et le sergent dit « Vous êtes un pauvre homme et je ne veux pas de votre argent, mais je vous aiderai. Quand j'irai me coucher, Payez une bouteille d'eau-de-vie aux soldats, ça les fera dormir. Je ne vous regarderai pas. » C'était un brave homme. Je payai une bouteille d'eau-de-vie, et quand les soldats furent gris, j'enfilai mes bottes, une vieille capote, et je sortis tout doucement. Arrivé au rempart, je voulus sauter, mais il y avait de l'eau dans le fossé, et je ne voulais pas abîmer mon dernier vêtement. J'essayai de faire le tour par la grande porte. La sentinelle se promenait, son fusil sur l'épaule, et me regardait. « Qui vive ? » cria-t-elle. Je ne répondis pas. « Qui vive ? » répéta-t-elle. Je ne répondis pas. « Qui vive ? » cria-t-elle pour la troisième fois, et je me mis à courir. Je sautai dans l'eau, grimpai sur l'autre bord, et filai. Pendant toute la nuit, je courus en suivant la route. Mais lorsque parut le jour, j'eus peur d'être reconnu, et je me cachai dans un grand champ de seigle. Là, je me mis à genoux, je joignis les mains, et je remerciai notre Père Céleste de m'avoir sauvé. Après quoi, je m'endormis avec un sentiment de paix. Je m'éveillai vers le soir, et me remis en route. Tout à coup, je fus rattrapé par un grand chariot allemand attelé de deux chevaux moraux. Sur le siège était un homme bien vêtu qui fumait sa pipe. Il me regarda. Je ralentis pour laisser le chariot me dépasser. Le chariot ralentit aussi et l'homme me regarda. Je pressai le pas, le chariot alla plus vite et l'homme me regarda. Je m'assis au bord du chemin. L'homme arrêta ses chevaux et me regarda. « Jeune homme, dit-il, où allez-vous si tard ? » Je dis, « Je vais à Francfort. »« Montez dans mon chariot, il y a de la place, et je vous conduirai. Pourquoi n'avez-vous pas de bagages ? Pourquoi votre barbe n'est-elle pas faite, et vos habits sont-ils pleins de boue ? » me dit-il quand je fus assis à côté de lui. « Je suis un pauvre homme, dis-je. Je voudrais me louer dans une fabrique. Il y a de la boue à mes habits parce que je suis tombé sur la route. » « Vous mentez, jeune homme. La route est sèche. » Je gardai le silence. « Dites-moi toute la vérité, me dit le brave homme. Qui êtes-vous et d'où venez-vous? Votre figure me plaît. Et si vous êtes un homme honnête, je vous aiderai. » Je lui racontai tout. Il dit, « C'est bon, jeune homme. Venez à ma corderie. Je vous donnerai de l'ouvrage et vous demeurerez chez moi. » Et je dis, « Bien. » Nous arrivâmes à la corderie et le brave homme dit à sa femme, « Voici un jeune homme qui s'est battu pour son pays. Il était prisonnier et s'est sauvé. Il n'a ni foyer, ni vêtements, ni pain. Il demeurera chez nous. Donnez-lui du linge propre et faites-le manger. » Je restai un an et demi à la corderie, et mon patron m'aimait tant qu'il ne voulait plus me laisser m'en aller. Je me trouvais bien chez lui. En ce temps-là, j'étais beau garçon. J'étais jeune, grand, j'avais les yeux bleus et un nez romain. Et Madame L, je ne peux pas dire son nom, la femme de mon patron, était une jeune et jolie dame. Elle se mit à m'aimer. Un jour, en m'apercevant, elle me dit, « Monsieur Meyer, comment vous appelle votre maman ?» Je répondis, « Charlot. » Et elle dit, « Charlot, asseyez-vous à côté de moi. » Je m'assis à côté d'elle et elle dit, « Charlot, embrassez-moi. » Je l'embrassai et elle dit, « Charlot, je vous aime tant que je n'en peux plus. » Et elle tremblait de tout son corps. Karl Ivanovitch fit une longue pause. Branlant légèrement la tête et roulant ses bons yeux bleus, il souriait comme on sourit à des souvenirs agréables. « Oui, » reprit-il enfin en s'arrangeant dans son fauteuil et en croisant sa robe de chambre, « j'ai eu beaucoup de bons et beaucoup de mauvais dans ma vie. Mais voici mon témoin. » Il montrait un Christ en tapisserie pendu au-dessus de son lit. Personne n'a le droit de dire que Karl Ivanovitch a été un malhonnête homme. Je ne voulus pas payer d'une noire ingratitude les bienfaits de Monsieur L, et je résolus de me sauver de chez lui. Un soir, quand tout le monde fut couché, j'écrivis une lettre à mon patron et la posai sur la table de ma chambre. Ensuite, je pris mes hardes, 3 thalers et sortis sans bruit. Personne ne m'avait vu et je suivis la grande route. Chapitre 30. Suite. Il y avait 9 ans que je n'avais vu maman, et je ne savais pas si elle était encore vivante ou si ses os reposaient dans la terre humide. Je retournais dans mon pays. En arrivant à la ville, je demandai où demeurait Gustave Meyer, le fermier du comte Sommerblatt. On me répondit « Le comte Sommerblatt est mort, et Gustave Meyer demeure à présent dans la grande rue où il tient un débit de liqueur. » Je mis mon gilet neuf, mon beau paletot, c'est le patron qui me l'avait donné. Je me peignais bien et j'entrai dans la boutique de mon papa. Ma sœur Marie était assise dans la boutique. Elle me demanda ce que je voulais. Je dis « Pourrait-on boire un petit verre de liqueur ?» Elle dit « Papa, il y a un jeune homme qui demande un petit verre de liqueur. » Et papa dit « Donne-lui un petit verre de liqueur. » Je m'assis devant une petite table. Je bus mon petit verre de liqueur et je fumai ma pipe en regardant papa, Marie et Johan qui venaient aussi d'entrer. En causant, papa me dit « Vous savez sûrement, jeune homme, où est à présent notre armée ?» Je dis « J'en viens, elle est près de Vienne. » « Notre fils, dit papa, était soldat. Voilà 9 ans qu'il est parti et il ne nous a pas écrit. Nous ne savons pas s'il est mort ou vivant. Ma femme ne cesse pas de pleurer. » Je fumai ma pipe et je dis « Comment s'appelait votre fils et dans quel régiment était-il? Peut-être que je le connais. » « Il s'appelait Karl Meyer et il était dans les chasseurs autrichiens, » dit mon papa. « Il était grand et beau garçon comme vous, » dit ma sœur Marie. Je dis « Je connais votre Karl. »« Amalia !» cria mon père. « Viens ici! Voilà un jeune homme qui connaît notre Karl !» Et ma chère maman entra par la porte du fond. Je la reconnus tout de suite. « Vous connaissez notre Karl ? » dit-elle en me regardant. Et elle devint toute pâle et se mit à trembler. « Oui, je l'ai vu, » dis-je sans oser lever les yeux sur elle. Mon cœur me sautait dans la poitrine. « Mon Karl est vivant ? » dit maman. « Dieu soit loué ! Où est-il, mon bon Karl ? Je mourrais tranquille si je pouvais le revoir une seule fois, mon fils bien-aimé. Mais Dieu ne le veut pas. » Elle se mit à pleurer. Je ne pus le supporter. « Maman ! » criai-je. « Je suis votre Karl !» Et elle tomba dans mes bras. Karl Ivanovitch ferma les yeux et ses lèvres tremblèrent. « Maman, je suis votre Karl !» Et elle tomba dans mes bras. Répéta-t-il en se calmant un peu et en essuyant de grosses larmes qui roulaient le long de ses joues. « Mais Dieu, reprit-il, ne permit pas que je terminasse mes jours dans ma patrie. Le malheur me poursuivait partout. Je ne vécus dans ma patrie que 3 mois. Un dimanche, j'étais au café, je buvais un cruchon de bière en fumant ma pipe, et je parlais politique avec mes connaissances. On parlait de l'empereur François, de Napoléon, de la guerre, et chacun donnait son avis. Près de nous était assis un monsieur en paletot gris que nous ne connaissions pas. Il prenait du café, fumait sa pipe et ne disait rien. Quand le veilleur cria « 10 heures !» je pris mon chapeau, je payai et je retournai à la maison. Au milieu de la nuit, on frappe à ma porte. Je m'éveille et je dis « Qui est là ? Ouvrez !» Je dis « Dites qui est là et j'ouvrirai. « Ouvrez, au nom de la loi !» dit une voix derrière la porte. J'ouvre, il y avait derrière la porte 2 soldats avec leurs fusils, et je vois entrer l'inconnu en paletot gris qui était près de nous au café. C'était un espion. « Suivez-moi, » dit l'espion. « Bien, » dis-je. Je mis mes bottes et mon pantalon, et j'allais et venais dans la chambre en mettant mes bretelles. Ça me bouillait dans le cœur. Je me disais « Coquin, va !» Quand je me trouvais près du mur où était accroché mon sabre, je l'empoignais et je dis « Tu es un espion, défends-toi » Je lui allonge un coup à droite, un coup à gauche et un coup sur la tête. L'espion tombe. Je saisis mon porte-manteau et ma bourse, je saute par la fenêtre et je m'en vais à Ems. Là, je fis la connaissance du général Sazine. Il se prit d'affection pour moi, me procura un passeport et m'emmena en Russie pour faire l'éducation de ses enfants. À sa mort, votre maman me prit. Elle me dit « Karl Ivanovitch, je vous confie mes enfants, aimez-les et je ne vous abandonnerai jamais. J'assurerai le repos de votre vieillesse. » Elle n'y est plus et tout est oublié. Après 20 ans de service, il faut qu'avec mes cheveux blancs, j'aille mendier dans la rue un morceau de pain dur. Dieu voit tout et sait tout. Que sa sainte volonté soit faite en toutes choses. Seulement, je suis fâché pour vous, enfant. » En achevant ces mots, Karl Ivanovitch me prit par la main, m'attira à lui et me baisa au front. Chapitre 31. J'ai un 1. À l'expiration de notre année de deuil, grand-mère commença à se remettre un peu de son chagrin et à recevoir de temps à autre, surtout des enfants, nos camarades et les amis de ma sœur. Le jour de la fête de Lioubotchka, le 13 décembre, la princesse Kornakov et ses filles, Madame Valakin et Sonia, Ilin Grapp et les deux plus jeunes Ivine arrivèrent dès avant le dîner. D'en haut, nous entendions les voix, les rires et les allées et venues, mais nous ne pouvions pas aller rejoindre la société avant la fin des classes du matin. Le tableau accroché dans la classe portait « Lundi, de 2 à 3, maître d'histoire et de géographie. » Avant d'être libre, il nous fallait attendre ce maître d'histoire, écouter sa leçon et le reconduire. Il était déjà 2h15. Le maître n'était pas arrivé. On ne l'entendait pas et on ne l'apercevait même pas dans la rue, où je le guettais avec un désir intense de ne jamais le voir. « Il paraît que les Bedev ne viennent pas aujourd'hui, » dit Volodia en s'arrachant un instant du livre où il préparait sa leçon. « Dieu le veuille, Dieu le veuille. Avec ça, je ne sais pas un mot. Bon, le voilà !» ajoutai-je d'une voix triste. Volodia se leva et s'approcha de la fenêtre. « Non, ce n'est pas lui, c'est un barine, » dit-il. « Attendons encore jusqu'à 2h30. » ajouta-t-il en s'étirant et en se grattant le haut de la tête, selon son habitude quand il se reposait un instant de son travail. « S'il n'est pas arrivé à 2h30, nous pourrons aller le dire à Saint-Jérôme et serrer nos cahiers. » « Il a aussi envie d'aller se promener, » dis-je en m'étirant à mon tour et en agitant au-dessus de ma tête le livre que je tenais à deux mains. Par désœuvrement, j'ouvris le livre à l'endroit de la leçon et je me mis à lire. La leçon était longue et difficile, je n'en savais pas le premier mot, et je constatais que jamais je ne m'en rappellerais rien. J'étais dans cet état nerveux où il est impossible de fixer sa pensée sur n'importe quoi. La leçon d'histoire était toujours pour moi un supplice. À la précédente, les Bedef s'étaient plaints de moi à Saint-Jérôme et m'avaient donné un 2. Ce qui signifiait « très mal ». Saint Jérôme m'avait alors déclaré que si la prochaine fois j'avais moins de 3, je serais sévèrement puni. La prochaine fois était arrivée et j'avais une peur bleue. J'étais tellement absorbé par la lecture de cette leçon inconnue que je fus soudain frappé par un bruit de galoche qu'on ôte venant de l'antichambre. J'eus à peine le temps de lever la tête qu'apparaissait à la porte l'horrible figure grêlée et la personne gauche, que je ne connaissais que trop, du maître d'histoire, avec son habit bleu à boutons universitaires. Il posa avec lenteur son chapeau sur la fenêtre et ses livres sur la table, tira son habit à deux mains pour en effacer les plis, c'était vraiment bien nécessaire, et s'assit en soufflant. « Allons, messieurs, » dit-il en frottant ses mains suantes, « repassons d'abord ce qui a été dit dans la classe précédente, et ensuite je m'efforcerai de vous faire connaître la suite des événements du Moyen-Âge. » Cela voulait dire « récitez vos leçons ». Pendant que Volodia récitait avec l'aisance et l'assurance de celui qui sait sa leçon, je sortis sans aucun but sur le palier de l'escalier. Ne pouvant pas descendre, il était bien naturel que, sans y penser, je me trouvasse sur le palier. À peine allais-je m'installer à mon observatoire ordinaire, derrière la porte, que Mimi, elle était toujours la cause de tous mes malheurs, me tomba dessus à l'improviste. « Vous ici ? » dit-elle en regardant sévèrement, moi d'abord, puis la porte de la chambre des servantes, puis de nouveau moi. Je me sentais doublement en faute, n'étant pas dans la classe et me trouvant dans un endroit défendu. Je n'osais donc rien dire, et, baissant la tête, j'exprimais par mon attitude le repentir le plus touchant. « Non, c'est trop fort ! » s'écria Mimi. « Qu'est-ce que vous faisiez là ?» Je gardai le silence. « Non, ça ne se passera pas comme ça » continua-t-elle en frappant sur la rampe de l'escalier avec le dos de ses doigts. « Je le dirai à la comtesse !» Il était 3h05 quand je rentrai dans la classe. Le professeur avait l'air de ne pas s'apercevoir si j'y étais ou non et expliquait la leçon suivante à Volodia. Les explications terminées, il commença à rassembler ses cahiers et Volodia alla chercher le cachet dans la chambre voisine. Il me vint l'idée délicieuse que la leçon était finie et qu'on m'avait oublié. Tout à coup, le maître se tourna vers moi avec un demi-sourire méchant. « J'espère, » dit-il en se frottant les mains, « que vous avez appris votre leçon ?»« Oui. Veuillez me parler de la croisade de Saint-Louis. » dit-il en se balançant sur son siège et en regardant ses souliers d'un air rêveur. D'abord, les causes qui ont engagé le roi de France à prendre la croix. Il leva les sourcils et montra du doigt l'encrier. Ensuite, les traits caractéristiques de cette croisade. Il remua son poignet comme s'il voulait attraper quelque chose. Enfin, l'influence de cette croisade sur les États européens en général. Il frappa avec ses cahiers sur le côté gauche de la table. « Et sur le royaume de France en particulier. » Il frappa avec ses cahiers sur le côté droit de la table et pencha la tête sur l'épaule droite. J'avalai plusieurs fois ma salive, toussai, inclinai la tête de côté et ne dis rien. Ensuite, je pris la plume posée sur la table et me mis à la déchiqueter, toujours sans rien dire. « Donnez-moi cette plume, » dit le maître en tendant la main. « Elle nous sert. Allons. » Louis, Saint-Louis, était un bon tsar.
« Un quoi ? » ?»«
Un bon tsar. Il eut l'idée d'aller à Jérusalem, et il remit les rênes du gouvernement à sa mère.
« Comment s'appelait-elle ? »
Belan.
Comment ? Bélante ?
Je ris gauchement et bêtement. Voyons, ne savez-vous pas encore quelque chose ? Demanda-t-il avec ironie. Je n'avais plus rien à perdre. J'éclaircis ma voix et je me lançai à débiter tout ce qui me passait par la tête. Le maître époussetait la table, sans rien dire, avec la plume qu'il m'avait ôtée, et regardait obstinément à côté de moi, en répétant de temps en temps « Bien, très bien !» Je sentais que je ne savais rien, que je pataugeais, et il m'était horriblement pénible que le maître ne m'arrêtât ni ne me reprît. « Pourquoi ? » dit-il enfin en répétant ma phrase. « A-t-il eu l'idée d'aller à Jérusalem ?»«
Parce que... c'est que... il voulait... »
Je m'embrouillais tout à fait et restais muet. Je sentais que ce méchant maître pourrait bien me regarder comme ça pendant un an. Je ne serais pas capable d'ajouter une syllabe. Il attendit 3 minutes, puis sa figure prit subitement l'expression d'une profonde tristesse, et il dit d'un ton affligé à Volodia, qui rentrait au même moment,
« Donnez-moi le cahier de notes. »
Volodia lui donna le cahier de notes et posa soigneusement le cachet à côté. Le maître ouvrit le cahier, trempa sa plume avec précaution, et de sa belle écriture, il mit un 5 à Volodia dans la colonne des « progrès » et dans celle de la « conduite ». Ensuite, tenant sa plume en l'air au-dessus des colonnes où étaient mes notes, il me regarda et réfléchit. Tout à coup, sa main fit un mouvement imperceptible et un « 1 » superbe, suivi d'un point, apparut dans la colonne des « progrès ». Un second mouvement et un autre « 1 » avec un point, dans la colonne de la conduite. Le maître referma avec précaution le cahier de notes, se leva et se dirigea vers la porte, sans avoir l'air de remarquer mon regard suppliant, désespéré, chargé de reproches. « Michel Larionitch, » dis-je. « Non, » répondit-il, devinant ce que j'allais lui dire. « Ça ne peut pas aller comme ça. Je ne veux pas voler mon argent. » Il remit ses galoches et son manteau de camelot et enroula soigneusement son cache-nez. Comme si, après le malheur qui venait de m'arriver, on pouvait encore s'intéresser à quelque chose. Pour lui, ce n'avait été qu'un trait de plume. Pour moi, c'était une catastrophe. « La leçon est finie ?» demanda Saint-Jérôme en entrant dans la classe. « Oui. » « Le maître a été content de vous ?»«
Oui, » répondit Volodia.
« Quelle note avez-vous »«
5 »
« Et Nicolas ?»
Je me taisais.
« Je crois qu'il a 4 » dit Volodia. Il avait compris qu'il fallait me sauver pour ce jour-là. Je serais puni, mais pas ce soir où il y avait du monde. « Voyons, messieurs !» Saint-Jérôme répétait « voyons » tous les 3 mots. « Faites votre toilette et descendons. »